Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Eau pour la vie avec ses deux jeunes en service civique, Alizé Côté.
Bonjour.
Et Théo Loire. Alors, Alizé, je sais que vous êtes montpelliéraine, mais vous avez fait vos études à Paris.
Ah non, j'ai fait également mes études à Montpellier.
À Montpellier.
À Montpellier, Supagro d'ailleurs, et à l'Université des sciences de Montpellier.
Et vous?
Alors moi, j'ai fait Sciences Po à Lille, donc l'Institut d'études politiques de province, la région nordiste.
Alors, comment avez-vous connu Eau pour la vie?
Eh bien, en fait, pour moi, je suis arrivée à la fin de mes études dans le domaine de l'eau. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu m'engager dans le milieu associatif et notamment dans l'accès à l'eau dans les pays en développement. Donc, j'ai cherché un emploi et j'étais très intéressée par une mission de service civique parce que c'est une très bonne opportunité pour nous, les jeunes, en fin d'études. Et donc, j'ai trouvé l'association parmi des offres d'emploi auxquelles j'ai répondu et auxquelles j'ai été reçue pour cette mission.
C'est ça. Et vous ?
Oui, bah c'est pareil. J'ai fini donc Sciences Po Lille en décembre. J'ai été diplômée. Et après une expérience personnelle avec un de mes amis, donc une expérience de solidarité internationale qu'on a montée en Indonésie, je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire, m'investir en fait dans une association qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des personnes, notamment dans l'accès à l'eau. Donc voilà, on s'est rendu sur la plateforme CiviWeb. CiviWeb, c'est la plateforme internet qui regroupe toutes les offres de services civiques. Et l'intérêt de cette offre-ci, donc l'offre d'eau pour la vie, c'était qu'elle proposait 5 mois en France, à Montpellier, pour monter le projet, pour faire des animations, tout ça, on en parlera plus tard dans l'émission.
Oui.
Et également 3 mois au Bénin de mise en place de nos projets, de suivi des anciens projets. Et donc voilà, c'était vraiment cette dualité, le fait de pouvoir vraiment être sur les deux fronts qui m'a motivé à me présenter, voilà.
Alors, dites-nous un peu ce que réalise Eau pour la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez choisi.
En fait, donc, l'association Eau pour la vie, c'est une association qui a plus de 30 ans, qui a été fondée par 4 ingénieurs hydrauliciens et qui œuvre pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau, essentiellement en Afrique subsaharienne. Donc, elle a mené plusieurs projets. Au début, c'était en Tanzanie et au Nigeria. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, nous sommes au Bénin. Et depuis sa création, c'est 95 000 personnes qui ont pu bénéficier d'un accès à l'eau grâce à notre association. Mais nous avons également des projets en France où nous menons des sensibilisations, des animations auprès des scolaires et du grand public pour un peu éduquer aux questions environnementales et à l'importance de la préservation de la ressource en eau, de la gestion.
C'est ça. Voilà. Notre dernière action était au collège Ray Charles de Fabrègues, auprès des 5e. Donc on a pris en charge 4 classes, donc bien sûr séparément.
Une classe. Vous allez en parler.
C'est ça.
Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est après, pour vous, cette expérience de service civique, qu'est-ce que vous voudriez trouver comme travail?
Moi, j'aimerais bien rester dans la thématique de l'eau, du coup, mais en fait, j'aimerais bien trouver un emploi à l'étranger, sur l'accès à l'eau aussi. Donc, pourquoi pas ce qu'on appelle un VSI, un volontariat de solidarité internationale. Donc, c'est un peu comme dans le même style que le service civique, mais purement international. Donc là, on est vraiment en expatrié dans un pays... en développement.
C'est un peu comme le VIE, mais en solidarité internationale, en entreprise, mais dans une structure de solidarité. Donc c'est ce qui est pas mal. Ouais. Et personnellement, j'ai déjà eu une petite expérience de 2 mois au Burkina Faso auprès de Save the Children, une grosse ONG qui travaille pour la protection de l'enfance, pour l'amélioration des conditions de vie en Afrique. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est une région qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça que c'était assez cohérent aussi de ma part de m'investir au Bénin pour l'association Eau pour la vie, parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'investir dans cette région, de la découvrir encore plus et de gagner en fait en connaissances, en compétences et en expertise sur cette région. Et pourquoi pas y travailler pendant quelques années, c'est un petit peu mon objectif.
Vous avez parlé de votre expérience aussi en Indonésie.
Oui.
c'était...
Alors ça, en fait, c'est un projet que j'ai monté avec un de mes amis. On venait de finir nos études. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre 2018, il y a eu un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes, donc surtout la ville de Palou. Et donc, mon ami et moi, on a monté ce projet où, en fait, on a relié l'île de Java et de Bali en vélo, donc c'était à peu près 2000 km, pour monter les fonds nécessaires au financement d'une pompe solaire, donc une pompe filtrante pour l'eau, en fait, parce que le grand problème là-bas, c'était l'accès à l'eau. Et donc, voilà, après 2000 km à vélo, on est allé à Palou pour installer cette pompe et pour justement amener de l'eau potable à un camp de déplacés qui en avait assez largement besoin.
Et ça a été bien réalisé.
Oui, on avait fixé comme objectif 2 500 €, qui était le prix d'un kit de pompe photovoltaïque, et on a récolté 2 930 €. Donc encore une fois, merci à nos contributeurs. Ça fait quelques mois, mais ça compte quand même. Et voilà, on a souvent des nouvelles des personnes avec qui on a travaillé, notre ONG partenaire. Et ça se passe très bien, ça se passe très bien, la pompe va bien, tout va bien.
Voilà, une riche expérience déjà.
Un peu.
Alors, vous avez pensé à une musique, de quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit de Korodjo, c'est le titre d'un chanteur qui s'appelle Ismaël Issa, c'est un chanteur ivoirien. Et je pense que voilà, ça fait
Écoutons. Je rappelle que je suis avec l'association Eau pour la vie et que Alizé Côté et Théo Loire, qui sont tous les deux en service civique auprès de cette association, nous indiquent tout ce qui a été fait justement par Eau pour la vie. Alors Eau pour la vie, en 2018-2019, a déjà eu plein d'actions.
C'est ça, exactement. Donc, je pense que l'action principale qu'il faudrait souligner, c'est notre projet à Adélomi. Adélomi, c'est un petit village dans la commune d'Akpromisserété, au Bénin. Et là-bas, en fait, à la demande du groupement de femmes en fait, qui exploitent la noix de palme pour en faire de l'huile de palme, donc une exploitation, on va dire, locale et traditionnelle, On a l'association pour la vie a installé une pompe photovoltaïque, donc qu'on appelle au fil du soleil, pour justement prendre le relais, parce qu'avant il y avait une pompe manuelle, donc il fallait à chaque fois faire avec c'était une pompe à pied, donc il fallait pomper pour avoir l'eau, donc c'était quand même d'assez physique, qui prenait du temps, alors que là voilà c'est photovoltaïque, donc l'eau coule toute seule on va dire, et ça leur garantit en fait une source d'eau qui leur permet de transformer cette huile de palme en huile de palme, excusez-moi. Donc au final, c'était quelque chose qui permettait également de dynamiser le tissu économique local. Et le point important de ce projet, c'est que l'installation de cette pompe photovoltaïque a été réalisée par 7 lycéens du lycée technique de l'ODEV. Donc c'était parce que leur professeur est un membre d'Eau pour la vie. Et il s'est dit que voilà que ça serait une super opportunité pour ces enfants-là, enfin pour ces jeunes-là plutôt, de mettre en action et vraiment de réaliser leurs expériences qu'ils ont un petit peu voilà collectées lors de leur enseignement.
Oui, au point de vue de la technique, voilà, c'était
super. Ils ont mis les mains dans le cambouis, ils sont allés au Bénin pendant 2 semaines, donc ça leur a permis également un dépaysement total en fait, parce que voilà c'est eux qui ont vraiment mis en place ces pompes. Et donc là, justement, ce projet-là va être célébré, parce que dans 2 semaines, ces élèves-là vont recevoir le prix national de l'éducation à la citoyenneté. C'est un prix qui est décerné par l'Ordre national du mérite, tous les ans, à des élèves, à des enfants, des jeunes citoyens, qui se sont illustrés par leur action citoyenne, par leur action altruiste, on va dire. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui met un point d'orgue, en fait, sur ce projet, et surtout qui met ces élèves-là à l'honneur. Donc nous, bien sûr, en tant qu'association, on est super contents de pouvoir offrir cette opportunité à ces jeunes-là qui peut-être ne seraient jamais allés en Afrique, ou du moins qui n'auraient pas eu cette opportunité-là avant de finir leurs études. Donc voilà, on les salue, on salue le professeur M. Sébastien Loeb qui a permis de mener à bien ce projet, et voilà, on est très heureux.
Alors ce n'est pas le seul projet, évidemment, non, que vous menez avec des scolaires. Il y a beaucoup d'interventions aussi, à oui, Prades même, à
oui,
Prades-le-Lez, où est votre siège.
C'est cela, en France, on intervient aussi donc, auprès des enfants. Là, cette année, il y a eu 2 ou 3 interventions. Donc, premièrement, à l'école primaire de Prades-le-Lez, où l'ensemble des élèves de CM1 ont été sensibilisés aux économies d'eau. Donc pour leur faire comprendre que l'eau, oui, arrive dans nos robinets, mais que c'est une ressource à laquelle il faut faire attention et que nous n'avons pas tous la chance
d'avoir de l'eau courante.
D'avoir de l'eau courante et en quantité, parce que si nous, en France, on consomme à peu près 150 litres d'eau par jour, en Afrique, c'est seulement 20 litres, voire même selon les pays, encore moins. Donc voilà, c'est pour leur faire comprendre tout cela et puis qu'ils fassent attention à leur consommation.
C'est ça.
Et donc on a fait également une autre intervention que là, c'est nous, les nouveaux services civiques qui l'avons mené à peine 3 semaines après notre arrivée. Donc ce fut assez sportif pour tout faire, mais c'était très intéressant. Donc nous sommes intervenus dans le collège de Fabrègues auprès des élèves de 5e. Et là, c'était une animation qui était toute nouvelle pour l'association. Alors là, l'objectif était de les sensibiliser à la création d'un projet solidaire dans un premier temps. Donc on leur a expliqué toutes les étapes d'un projet, donc l'étape du diagnostic.
En fait, je pense qu'il fallait... Le but, c'était vraiment de leur faire comprendre que c'est un cycle qui passe par plusieurs étapes. Donc oui, forcément, faire le diagnostic, identifier le besoin, c'est le truc le plus important au début. Après, ensuite, voilà, il y a identification des besoins.
Oui, répondre à
rechercher de l'aide,
besoin,
etc. Et donc, on a essayé de leur faire comprendre que ce cheminement-là ne peut pas être réalisé tout seul, qu'on a besoin de partenaires clés, donc que ce soit des amis, que ce soit la mairie, que ce soit des autorités autres, ou une ONG locale. Donc voilà, on a essayé vraiment de les immerger en fait dans une situation où ils devaient réaliser un projet solidaire. Et je pense qu'on s'en est pas trop mal sortis. Enfin, je sais pas ce que
t'en penses, mais... qu'ils ont bien compris.
C'est ça, voilà. Ils étaient assez heureux, donc voilà. C'était super.
Et on a fait, du coup, pour ces mêmes élèves, on a fait une deuxième animation où là, c'était pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que, en fait, en Afrique, l'accès à l'eau est parfois si compliqué, alors que finalement, les ressources en eau, selon les pays, sont suffisantes. Et c'est le cas du Bénin, notamment, où si on compare les précipitations entre la capitale Porto Novo et Montpellier, eh bien en fait, les précipitations du Bénin sont supérieures à celles d'ici. Et pourtant, là-bas, on a 30% de la population qui n'a pas accès à l'eau, contrairement à chez nous. Donc là, l'objectif, c'était de leur faire réfléchir à « Ok, mais alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» Et c'était assez... ils avaient du mal parfois à comprendre, mais à la fin, ils comprenaient bien que c'était donc les questions parfois aussi de budget. L'argent est un gros frein à l'investissement dans les infrastructures.
Et les gros problèmes d'assainissement aussi.
Ah, oui. Ouais. Alors là, en fait, c'est l'assainissement, on est sur des... C'est quasiment que des infrastructures à mettre en place et ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc quand les populations n'ont pas accès à l'eau, c'est pas forcément une priorité non plus. On pense d'abord à l'eau et après à l'assainissement.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'au Bénin, quand on, par exemple dans ce projet dont on va vous parler après, on va aussi également mener des missions de sensibilisation aux pratiques d'hygiène, donc assez quotidienne, on va dire, donc se laver les mains, laver les légumes qu'on mange, etc. Mais aussi les sensibiliser aux techniques d'assainissement. Donc c'est voilà, à chaque fois on essaye d'inclure ce genre de thématique, parce que sinon bon, c'est bien d'avoir de l'eau, mais si à côté elle est mal stockée et donc c'est un petit peu propice au développement de germes ou bactéries ou autres, ça sert moins, on va dire, ou du moins ça dessert un petit peu l'objectif premier. Donc voilà,
de toute façon, tout cela, ça rentre dans les objectifs de développement durable.
Exactement. C'est le sixième objectif de développement durable, donc fixé par l'ONU à l'horizon 2030, si je ne me
2030,
trompe.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Le sixième objectif, c'est un assainissement et un accès aux techniques d'assainissement et à de l'eau de façon universelle. Donc
oui, c'est ça. Voilà. Accès à l'eau et à l'assainissement. C'est ça.
Il y a beaucoup de travail encore à faire.
Il y a encore pas mal de boulot.
Oui, mais les choses avancent.
Notamment par des micro-projets comme les nôtres. Oui. Donc voilà, si vous voulez pas.
Oui, ce ne sont pas toujours les...
Sur place, vous trouvez des partenaires?
Oui.
Alors, quels sont-ils?
Alors justement, l'association pour la vie a un point fort, c'est qu'elle a 30 ans. Donc elle a une expérience qui n'est pas donnée à tous, on va dire, sans fausse modestie.
Oui, c'est l'année dernière qu'on a fêté les 30 ans,
c'est
je
ça,
crois.
L'année dernière, 30 ans de l'association. Et en fait, notre force, c'est que là-bas, on a réussi à créer deux antennes locales, à Akpromisserete et à Ouida. Donc, c'est les deux zones d'action de l'association. Et à chaque endroit, on a donc une antenne locale qui représente l'association et qui impulse en fait certaines dynamiques, certaines démarches, et donc qui permettent d'avoir un suivi du projet, d'avoir également une dynamique quand nous on n'est pas, enfin quand les services civiques ne sont pas sur place pour réaliser le projet, il y a quand même un travail d'entretien, de concertation, etc. qui est là. Ensuite, on a également affaire à des éléments extérieurs à l'association. L'association locale de développement ADIPA, par exemple, va être un acteur majeur dans le projet, dans notre projet à venir, là, qu'on va réaliser dans le courant de cet été. ADIPA, c'est un regroupement de locaux qui, justement, œuvre au développement local de la commune de Ouida, où notre projet va se tenir.
Puis on a également les collectivités locales qui font le lien donc entre la population et l'association. Mm-hmm. Je pense notamment à la mairie.
La mairie d'Akpromisserete. Ouais. On a un programme de coopération décentralisée entre Prades-le-Lez et Akpromisserete, donc qui permettent par exemple d'avoir des échanges culturels entre les deux écoles. Donc voilà, c'est super parce que par exemple à chaque journée internationale de l'eau, chaque année. Les élèves de l'école d'Akpromisserete et les élèves de l'école de Prades se font des échanges Skype ou du moins des appels par Internet pour pouvoir voilà parler de la vie en fait tout simplement de ce qu'ils font de comment ils vivent leur vie au quotidien. Donc c'est super parce que voilà ça leur permet de s'ouvrir à la différence en fait.
Oui, et déjà de communiquer.
Exactement.
Donc, sur le plan de cette, toute cette animation faite avec les scolaires, ça débouche toujours sur une ouverture.
Ça, on essaye en fait de, même si on parle de sujets qui peuvent leur paraître un petit peu lointains, on essaye toujours de rapporter ça en fait à des préoccupations que eux peuvent également vivre ou ressentir ou autre. Et on essaye toujours de. Enfin, je sais que par exemple personnellement, lorsque j'ai parlé avec eux de lors de mon animation avec le montage d'un projet solidaire, à chaque fois j'essayais de ramener ça à ce que moi j'avais pu soit ressentir, soit vivre, soit faire lors de mon projet en Indonésie. Comme ça, ça leur permettait justement de faire un lien également avec l'interlocuteur et avec la personne, et pas que ce soit un petit peu hors sol, de façon très abstraite. Oui. Là, voilà, c'était une personne en face d'eux qui leur parlait, qui leur donnait des retours d'expérience.
Et puis c'est toujours relié à leur vie quotidienne.
Aussi, c'est voilà, ça. Voilà. Aussi. Il faut trouver les bons mots, mais je pense que c'est très important de parler aux jeunes de ce genre de sujet.
Et sur le plan des grands publics, vous en rencontrez comment? Parce que, oui, la question que je voulais vous poser aussi, vous travaillez plutôt avec des communes, mais pas avec des grandes villes.
Alors, les grandes villes, comme par exemple le Grand Lyon ou la métropole de Montpellier, sont plutôt, entrent en jeu, en fait, lors des financements, surtout.
Oui.
On leur demande, on monte des dossiers de financement pour qu'ils nous aident à réaliser nos différents projets au Bénin. Mais pour nos partenaires dans la sensibilisation au grand public, par exemple, on en a beaucoup fait à Pral-de-Lez, forcément, parce que c'est là
c'est
où l'association
siège.
Est basée. C'est un petit peu le fief, on va dire. Je plaisante.
Mais c'est voilà. Le siège national, maintenant, Pral-de-Lez.
Oui, c'est ça. C'est là où, voilà, c'est là où, tout, où toutes les décisions sont prises, on va dire. Et donc, c'est super important, déjà, d'impliquer notre base territoriale, on va dire. Mais ensuite, là, à Montpellier, par exemple... On va, donc ce dimanche-ci, on va mener une animation dans les ENS, les espaces naturels sensibles, en partenariat avec...
Donc là, en fait, c'est le département qui nous a mandaté. Donc on va représenter le département pour animer justement ces espaces naturels sensibles, qui sont des espaces protégés que le département de l'Hérault a racheté justement pour les protéger. Et pour éviter toute construction et tout développement urbain incontrôlé.
C'est un concept assez intéressant parce que pour chaque construction réalisée dans la région de Montpellier, un petit pourcent du budget est alloué à ces espaces naturels sensibles. Justement pour préserver la nature ici, qui est très belle d'ailleurs, n'étant pas de la région, je suis assez surpris, positivement. Et donc voilà, c'est toujours essayer de promouvoir la nature, sa préservation, la préservation en ressources en eau également. Parce que voilà, on va animer un stand là-bas, donc grand secret, grande surprise, vous ne saurez pas ce que c'est, mais il faut y aller. Donc c'est sur le domaine du Fesquet, près de Cazillac. C'est dimanche.
Voilà. Et est-ce que vous faites partie de Coopère 34?
Oui, bien sûr. On les salue d'ailleurs. J'ai été formé ce vendredi dans leurs locaux au secourisme d'ailleurs. Mais également, on est allé avec eux. Enfin, en tout cas, nous sommes vraiment en relation avec eux de façon constante.
Parce que
on parle de leur service civique.
Toutes les questions d'eau, c'est des questions d'environnement aussi.
C'est ça. Coopère 34 est un partenaire de choix, la MTMSI, la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale aussi.
Et oui, bien sûr, vous êtes membre depuis l'origine.
Oui. Au moins 30 ans, je pense. Donc voilà, oui, on essaye toujours d'avoir des partenaires locaux en France et locaux au Bénin dans notre zone d'activité pour avoir plus de force. Parce que sinon, comme je l'ai dit justement aux élèves avec qui je faisais l'animation à Fabreg, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Voilà, on va écouter la musique que vous avez apportée.
Oh, parfait.
Il paraît que tu t'appelles le Corojo. Il paraît que tu t'appelles le Corojo. Et tu pêches comme un comment. Elle est là, elle ne craint rien. Tu pêches comme un comment. Elle peut crier.
Voilà, nous reprenons avec O pour la vie. qui veut vous présenter son projet actuel.
Oui, c'est ça. Alors, actuellement, nous avons un projet dans le village de Pau, qui se situe dans le sud du Bénin, où nous menons donc un projet d'accès à l'eau potable pour ses habitants. Donc, je vais juste faire un
3000 habitants, je crois, environ.
C'est 8000 habitants.
8000 habitants.
En constante croissance.
Exactement,
en fait.
Exactement,
ah ouais,
en fait
ça explose.
C'est ça. En fait, c'est l'Agence française de développement qui, dans un premier temps, avait créé un réseau d'adduction de villageoises, donc un réseau d'eau potable pour les habitants du centre de ce village. Donc ça a pu bénéficier à plusieurs milliers de personnes. Sauf qu'en fait, on est sur une configuration assez particulière avec une population très dispersée. Du coup, on se retrouvait avec des quartiers qui étaient très isolés de ce centre. Et donc, s'ils étaient isolés du centre, ils étaient également isolés des infrastructures d'accès à l'eau. Donc, ils devaient marcher en plusieurs kilomètres, pour certains même, voire 5 ou 6 kilomètres par jour.
Pour aller au puits.
Pour aller chercher l'eau à la bande fontaine, donc avec des récipients lourds. Donc c'est la population qui a fait appel à notre association pour raccorder justement ces quartiers qui étaient très isolés. Donc dans un premier temps, Eau pour la Vie a fait une extension de ce réseau pour les quartiers éloignés. Sauf que le forage qui a été construit dans un premier temps par l'Agence française de développement n'était plus d'un débit suffisant pour alimenter en eau toutes ces populations qui en plus ne cessaient de grandir. Donc Eau pour la Vie a décidé de créer une nouvelle adduction d'eau villageoise pour l'un des quartiers de ce village qui se nomme Soglokoji qui compte à peu près aujourd'hui 8000 habitants et chaque année ce nombre ne cesse de grandir. Donc l'association a construit un nouveau forage à une cinquantaine de mètres de profondeur, donc il a fallu quand même aller la chercher assez loin, ça. Donc ça a été fait en 2016. Par la suite, on a fait donc le château d'eau qui fait à peu près 30 mètres cubes, qui va permettre de stocker l'eau avant de la distribuer. Et là, aujourd'hui, nous sommes donc dans la dernière phase de ce projet qui consiste à installer les deux bornes fontaines. Donc en fait, ça ressemble à ces deux bornes avec deux robinets où les gens donc pourront arriver avec leur récipient pour s'alimenter en eau. Et là donc c'est notre dernière étape. Il faut donc les installer pour le village.
C'est pour ça qu'on a besoin de vous tous les auditeurs. Et en fait voilà, c'est super important.
Alors
la cagnotte en ligne participative qu'on a lancée, là-dessus on a fixé un objectif de 2160 €. Hier, on a atteint la moitié, donc on était très heureux. C'était super. Enfin voilà. Donc on a encore bien sûr besoin de vos coups de pouce. Hein. C'est toujours très important d'inclure le plus de monde possible dans ces projets parce que voilà, c'est aussi dans la démarche citoyenne de l'association. Et ce qui est important de souligner, c'est que pour les deux bornes fontaines, l'association Eau pour la Vie s'est engagée à donner donc les deux postes de fontainiers. Parce qu'une borne fontaine comme ça, on ne la laisse pas en libre service parce que ça peut être détérioré. C'est quand même c'est quand même du matériel qui a coûté assez cher à installer, etc. Donc, on doit créer le poste de fontainier.
Va surveiller l'usage.
C'est ça, c'est un poste à responsabilité.
Ouais.
Et on s'est engagé à le réserver aux femmes. Parce qu'en général, ce sont les enfants et les femmes qui doivent se taper la corvée d'eau, si vous me passez cette expression. Donc, c'est long, c'est fatigant. Les enfants doivent choisir souvent entre aller chercher de l'eau ou aller à l'école. Donc, l'absentéisme scolaire est corrélé et lié à cette corvée d'eau. Et les femmes, si on limite le temps de marche vers un point d'eau, on peut également leur libérer du temps pour, je sais pas moi, développer une activité économique, s'occuper d'elles tout simplement, parce que voilà, elles ont...
Alors, vous dites à nos auditeurs où ils peuvent trouver les coordonnées.
Ça sera sur notre site web, eaupourlavie.org. Vous allez voir, il y a une belle section.
Vous aurez un petit article où vous trouverez le lien vers la cagnotte sur la plateforme KissKissBankBank et il se nomme Eau et Développement au Bénin.
Voilà, donc on peut aussi lire votre newsletter.
Oui, sur le site web, il y a tout. Il y a nos anciens projets, celui en Tanzanie en 1989, où l'Association pour la vie a commencé sur le territoire, sur le continent africain. Ensuite au Nigeria et maintenant au Bénin depuis 10 ans, vous pourrez voir notre projet de ferme-école pour des femmes vulnérables. Vous pourrez voir notre projet de pompage au fil du soleil à Adélomi, dont on a parlé. Et bien sûr, le projet d'adduction aux villageoises à Paou, donc celui pour lequel on a besoin de votre aide.
Et qui bénéficiera à plus de 2000 personnes.
C'est ça.
Voilà, et alors vous avez bientôt une réunion?
Oui, alors vous pourrez nous retrouver le 6 juillet prochain à Prades-le-Lez pour la soirée annuelle de l'association. Donc il y aura un petit concert qui sera organisé avec le groupe Candido et Cecilia.
C'est ça, c'est de la musique mozambicaine, donc ça peut être super intéressant et très exotique, on va dire, parce que moi je ne connais pas du tout.
Non.
Donc voilà, ça va être super, il y a une tombola.
Et puis le fameux prix départemental.
Oui, le prix départemental, le prix national de l'ordre délivré par
l'ordre national du mérite.
Du mérite sera donc délivré.
Il sera remis à quelle date?
Le 30 juin prochain au Chiasma à Castelnau. Les élèves seront récompensés ce jour-là.
Un grand jour.
Eh bien, merci beaucoup. Je termine rapidement avec le calendrier. Mercredi 19 juin, de 18h30 à 21h, à la Carmagnole, 10 rue Haguenau. C'est pour une justice sociale et climatique. Il faut une justice fiscale. Et ce sera organisé par Oxfam, Languedoc-Roussillon, avec la présence de Pauline Leclerc, qui est la responsable fiscalité, justement, d'Oxfam National. Merci beaucoup à Haut pour la vie,
merci à vous.
À Théo et à Lisée. À bientôt, chers auditeurs.